Merci Justine Dinchet, on vous retrouve à 9h pour le journal. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Mais que se passe-t-il avec l'orthographe? Ça nous rend fous, selon l'Obs et Caroline Brizard qui est avec nous en studio ce matin. La presse est-elle pro ou anti-accent circonflexe notamment? Visiblement, la question nous a passionnés, nous journalistes, presque autant que le débat sur la déchéance de la nationalité. En tout cas, la modification des manuels scolaires pour appliquer une simplification de l'orthographe décidée il y a 26 ans a entraîné beaucoup d'articles, de reportages et de commentaires. Les journalistes sont-ils pro ou anti-réforme de l'orthographe? On en parle ce matin dans Le Secret des Sources avec nos invités. Caroline Brizard est donc avec nous, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à l'Obs, spécialiste de l'éducation. Olivier Houdard, bonjour.
Bonjour.
Correcteur sur le site du Monde. Vous avez écrit avec Sylvie Prioul « La grammaire, c'est pas de la tarte » au Point Édition. Et vous tenez également le blog « Langue sauce piquante » sur lemonde.fr. En duplex de Bruxelles, Robin Cornet, bonjour.
Bonjour à tous.
Journaliste à la RTBF et en seconde partie de l'émission, on parlera d'une autre actualité avec le Salon de l'agriculture qui ouvre aujourd'hui dans un contexte de crise et de colère. Nous recevrons Manuel Ruffez, journaliste à France Inter, et Éric Delachaîné, journaliste au Figaro, également agriculteur et qui tient un blog sur le Figaro.fr, la plume dans les champs. Notre regard extérieur aujourd'hui, Mariette Darigrand, sémiologue du Secret des Sources. Bonjour Mariette.
Bonjour.
L'actualité à l'étranger, nous irons à Londres rejoindre notre correspondant. Franck Madvon, le clin d'œil de la semaine, Yacine Bouzard dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Daphné Abgral, Vincent Abouchard, avec aux manettes aujourd'hui Jean-Guilain Meige. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Nénuphar avec un F, oignon sans I, moins jamais. D'accent circonflexe ou de trait d'union. Voici la nouvelle orthographe simplifiée par l'Académie française, appliquée à partir de dorénavant dans les manuels scolaires du primaire. 2400 mots changent.
Dès le mois de septembre, de nombreux ouvrages porteront un macaron indiquant qu'ils respecteront désormais cette réforme.
Un mot dièse, je suis circonflexe, a été mis en circulation sur les réseaux des enseignants, des écrivains, des internautes, s'alarment en France donc de l'application de cette réforme.
Un nénuphar, N, accent aigu, N, U, F, A, R.
Bah, on a toujours écrit avec PH, avec un F, ça va faire bizarre.
Le secret des sources.
Voilà, extrait de plusieurs journaux télévisés et radio avec un F. Ça va faire bizarre, nous dit la jeune fille que l'on vient d'entendre. Caroline Brizard de l'Obs, vous signez le grand format consacré à l'orthographe. Pourquoi l'orthographe nous rend fou? C'est un dossier que vous avez proposé?
Non, c'est pas un dossier que j'ai proposé. Et c'est plutôt un dossier qui s'est imposé. Parce que il y avait tellement de réactions, autant dans l'opinion, on voyait remonter des commentaires de toutes sortes, de tous bords. Et puis même au sein de la rédaction, on était très partagés, les discussions allaient bon train. Donc on s'est dit que ça s'imposait, il fallait faire le point.
Et vous sentez déjà que la polémique va enfler?
Quand on écrit, la polémique est en pleine explosion. Je ne suis pas sûre qu'elle a gardé la même intensité. Je crois que les gens ont compris que c'était une réforme à la marge tout de même et pas une réforme de fond. Quoi.
C'est plus une simplification.
On modifie 2400 mots sur 40 000, c'est tout de même à la marge, il faut bien le dire.
Non, ce n'est pas une simplification, Olivier Houdard, correcteur du Monde.fr.
Non, mais je ne comprends pas déjà pourquoi on parle de réforme, parce qu'il ne s'agit pas d'une réforme. Il ne s'agit pas non plus de simplification, il s'agit au contraire d'une
ouverture,
d'une complexification, parce que le résultat, c'est que plusieurs milliers de mots vont pouvoir s'écrire de plusieurs façons différentes, alors qu'auparavant, ils s'écrivaient d'une seule façon. Je ne vois pas où est la simplification. En plus, il ne s'agit absolument pas d'une réforme, et elle est encore moins récente, vu qu'il s'agit de recommandations qui n'avait absolument pas valeur d'obligation. Et en plus, on peut même dire que ça remonte à beaucoup plus loin, parce que ça fait au moins un siècle que les autorités académiques, ministérielles, bon, essayent de, justement de simplifier l'orthographe, mais n'y parviennent pas. Et c'est, à mon avis, ce n'est pas du tout un problème technique, c'est pas un problème d'accent circonflexe ou autre, mais c'est un problème politique.
On va y venir, donc complexification, plutôt plus que simplification.
Bien sûr.
Caroline Brizard, quand même, ce que vous racontez dans votre grand format, je trouve ça inquiétant. Le niveau des élèves baisse. Vous donnez l'exemple de l'une des dictées de Finlande, où il ressort qu'en 2005, un élève de 5e a le niveau d'un élève de CM2 de 1987.
Oui, c'est vrai. Mais quand Daniel Manès et Daniel Kogis sortent cette étude, il y a un développement. C'est-à-dire que, effectivement, l'élève de 5e arrive à un niveau de l'élève de CM2 18 ans avant, mais il continue à progresser, de même que nous continuons à progresser tout au long de notre vie. Donc rien n'est perdu, c'est le message tout de même. Et puis je voudrais tout de même objecter, c'est pas une complexification, faut pas aller jusque là, parce que on prend l'exemple du trait d'union et la façon d'écrire les chiffres. Maintenant, moi j'avais toujours des soucis pour savoir comment est-ce qu'on écrivait 82, 83, où est-ce qu'on mettait le trait d'union. Maintenant, c'est tranché, il y a les traits d'union partout. Et ben c'est parfait.
C'est pas tranché parce qu'on a toujours le choix.
On a le choix, mais au moins, ça ne sera pas une faute quand on met les traits d'union au cas où.
Et en plus, je ne comprends pas pourquoi la presse découvre ces recommandations, alors qu'elles étaient appliquées, par exemple, par le Robert. Et ça, depuis un certain nombre d'années. Donc, ça n'a rien de nouveau. En fait, moi, je crois que... Enfin, je voudrais quand même dire que la presse...
Désolé, Olivier Houdin.
La presse, oui...
Elle va se défendre.
La presse, j'en fais partie aussi, mais la presse a joué un drôle de rôle là-dessus. Elle a lancé une espèce de buzz qui reposait sur du n'importe quoi. Parce que beaucoup de gens ont retenu ou retiennent de cette polémique que l'accent circonflexe allait disparaître. Alors que c'est marqué nulle part, c'est totalement faux. Il y a seulement le choix maintenant, pour certains mots, de ne pas mettre d'accent circonflexe, mais vous pouvez tout à fait le laisser. Au contraire, bon, d'un autre côté, attention, moi, le fait qu'un mot puisse avoir deux orthographes différentes, ça ne me gêne pas. Mais appeler ça une simplification, c'est un abus de langage.
Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Des moutons. Voyons, mon enfant, faites un effort. Était hunt. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton. Il y avait plusieurs moutons.
Extrait du film Topaz de Pagnol et la scène de la dictée que l'on a retrouvée grâce à Véronique Samuilov de l'équipe d'Emmanuel Laurentin et de la Fabrique de l'Histoire. Oui, Caroline Brizard,
oui,
les moutons.
Je voulais juste dire que c'est très joli comme exemple et on adore Topaz, mais ça ne concerne pas notre sujet puisque on supprime pas le pluriel ni la marque du pluriel. Donc
on remet la dictée un peu plus tard. Ça ne concerne pas la simplification, complexification de l'orthographe, mais la dictée va revenir, même si elle avait jamais en fait disparu.
Non, elle avait jamais disparu. Ça quand Najat Vallaud-Belkacem a dit qu'elle rétablissait la dictée, tout le monde a beaucoup ri parce que jamais ça n'avait disparu dans les classes.
Alors les moutons, comme on vient d'entendre Olivier Houdard, correcteur au Monde.fr, vous corrigez les articles des journalistes du Monde, ils font beaucoup de fautes. Allez-y, lâchez-vous.
Oui, ils en font comme tout le monde. Mais je voudrais vous dire une chose quand même, l'orthographe française est très compliquée, peut-être c'est la plus compliquée au monde. Et je pense qu'il n'existe personne au monde, et quand je dis au monde, c'est avec ou sans la majuscule, qui ne fasse pas de faute en français. C'est absolument impossible. Il faut savoir des tas de choses. Et je voudrais aussi... Je vais prendre l'exemple de Napoléon. Napoléon, il écrivait, il faisait beaucoup de fautes, et il a même toute sa vie, il était incapable de prononcer certains mots, et il en employait certains à la place d'autres. Par exemple, il paraît qu'il était incapable de dire infanterie, et il disait fantaisie à la place. Bon, ça l'a pas empêché d'avoir le destin qu'il a eu. Donc, je voudrais quand même aussi dire que l'orthographe, c'est pas vraiment une science, et c'est loin d'être toute la science, et c'est même un tout petit aspect du problème de la langue. Mais l'orthographe française est très compliquée, et en plus, je dirais que c'est voulu. Ça a été voulu par les académiciens. Il y a des textes très, très
clairs. C'est côté élitiste, hein.
Oui, oui, non, un gros côté élitiste, même. En gros, le bon langage, c'est pour l'élite et les autres, ils parlent comme ils veulent, mais toutes les règles qu'ils ont édictées, les dictionnaires qu'ils ont édités, ils les ont complexifiés à dessein. Ils ont relatinisé les mots, ils ont réétymologisé les mots pour les rendre plus compliqués. Ils les ont bardés et lardés de H, de Y, de TH, pour, alors que ça n'avait pas lieu d'être, pour, encore une fois, complexifier la langue. Il y a un côté élitiste là-dedans.
Caroline Brizard, dans un instant, on va aller à Bruxelles voir ce que l'on pense de tout cela avec Robin Cornet de la RTBF. Robin Cornet, ce débat sur l'autographe, vous a-t-il passionné également ?
Oui, alors effectivement, très vite, quand ça a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, vous savez que Internet a un peu aboli toutes les frontières, les Belges s'y sont intéressés aussi, on a vu apparaître, comme en France, des mots-clés, ce hashtag « je suis circonflexe », on a vu des réactions de gens attachés à la langue, aux règles du français, mais quand même avec l'impression qu'ici, on a pris les choses de façon un petit peu plus cool, et même si finalement, nous aussi, dans nos écoles, tout doucement, on est en train de mettre en œuvre cette réforme. Il est vrai que la presse s'est intéressée à la question et on comprend, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi la presse s'intéresse subitement à cette réforme qui en Belgique est ancienne aussi chez nous. C'est en 2008 qu'on a commencé à établir une circulaire demandant aux écoles d'apprendre les deux orthographes et celle basée donc sur les réformes décidées à l'Académie ou suggérées par l'Académie française. On comprend pourquoi la presse s'y intéresse, c'est que de plus en plus ce sont les réseaux sociaux qui donnent le tempo, qui donnent l'agenda médiatique. Et on a eu, nous aussi, beaucoup de grammairiens, de linguistes interrogés dans les médias à ce sujet.
Cette réforme de l'orthographe en Belgique, vous dites, parce que vous avez fait une propre réforme vous-même, hein, elle n'a pas fait trop de débats.
Alors, c'est plus ou moins les règles de l'Académie française, validées par notre Conseil supérieur de la langue française, alors avec quelques différences, hein, mais c'est quand même plus ou moins les mêmes réformes, le trait d'union qu'on supprime dans le mot week-end ou porte-monnaie, nénuphar avec un F, c'est plus ou moins les mêmes règles. Alors, ça a fait un débat en 2008, c'est vrai, à l'époque, et puis on l'a oublié, un peu comme en France, on a oublié cette réforme de 1990, et c'est revenu dans l'actualité, on avait presque oublié que cette réforme était mise en œuvre, et pourtant, le ministère de l'Éducation a demandé aux écoles d'apprendre les deux orthographes aux enfants. C'est difficile de savoir à quel point cet enseignement se fait dans toutes les écoles. En tout cas, on peut dire qu'une partie des manuels scolaires a été adaptée avec les nouvelles règles. Pour l'instant, la presse reste plutôt sur l'ancienne orthographe qu'on connaît bien. Et donc, c'est un peu difficile de faire aujourd'hui un état des lieux de où on en est dans l'intégration de ces nouvelles règles.
Merci, merci Robin Cornet. Je me tourne en France aussi, hein, d'ailleurs, ce que dit Robin Cornet, on est très pro-circonflexe, si j'ose dire. Hein. On respecte, on est très académique, hein, dans l'Obs.
Dans l'Obs, pas question d'appliquer la réforme.
La réforme, je me tourne vers vous, Mariette Darigrand, sémiologue. Ce terme réforme de l'orthographe n'est pas adapté. Vous dites que c'est un vilain mot.
Alors, il n'est pas du tout adapté, il est idéologique. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit.
Olivier Houdard est d'accord avec vous.
C'est un mot chargé de connotation, mais chargé par le média, c'est-à-dire enfin par l'air du temps, par le débat public tel qu'il existe depuis un certain nombre d'années. Et donc la réforme dite de l'orthographe rejoint d'autres réformes qui n'ont pas bonne presse, hein, celle du collège en particulier, ou celle aujourd'hui du Code du travail. Donc le mot réforme est très connoté, très négativement, mais il est pratique. Pour les médias, à un moment donné, mais les médias au sens très large, pas que les journalistes, hein, les politiques font partie du média aussi, pour tenter de faire émerger quelque chose, qu'on dira ou une action politique, ou une fameuse polémique par rapport à laquelle se situer. Alors, cette espèce de booster d'énervement ridicule, appliqué aux mots réforme, c'est quand même intéressant, parce que pour moi, là, il y a un mystère tout à fait sémiologique. Je ne comprends pas comment ce mot qui est si négatif aujourd'hui, enfin, est devenu si négatif alors même qu'il était si beau. Vous savez que la réforme, quand on regarde l'histoire du mot, mais bien sûr vient de ce qui s'est passé au XVIe siècle. Et lorsque les réformateurs se sont tournés vers la Bible, hein, en contestant les clergés, etc., ce moment fort de l'humanisme, le mot avait encore sa valeur latine. Forme, la forme n'était pas simplement hein, la morphologie, si vous voulez, mais était aussi la beauté. Forma en latin, ça veut dire aussi beauté. Donc ils avaient envie de revenir vers la beauté initiale, originelle des textes pour reprendre tout ça. C'est intéressant comme geste parce qu'aujourd'hui beaucoup d'artistes reviennent à quelque chose qui est originel. Bon, après il s'est passé la chose suivante, c'est que le mot est devenu, il a cessé d'être religieux, il est devenu politique. Et au XXe siècle, quand on a eu cette discussion, la gauche a eu cette discussion sur la révolution et le réformisme, est revenu. Le mot réforme, il était connoté progressisme, ça voulait à peu près dire ça. Puis la droite l'a repris, en particulier Édouard Balladur qui a fait un livre sur la réforme. Donc le mot est devenu droitiste. Et puis aujourd'hui, il n'a plus de couleur politique, en gros, mais il veut dire, au fond, la modernisation imposée au corps social avec de la casse, avec du chômage, avec la perte de l'origine, la perte de l'existence. C'est ça que veut dire le mot réforme. Donc ça n'est pas... C'est une trahison du sens historique et c'est, disons, la potentialisation d'un petit mot qui ne se dit plus, mais peut-être que vous avez fait votre service militaire, Frédéric. Si vous l'avez fait, non, vous ne l'avez pas fait parce que vous avez été...
J'ai rien dit.
Vous avez été réformé. Eh bien, ce mot qui a disparu avec la chose, il n'y a plus de service militaire, reste dans notre inconscient collectif. Ce qui est réformé, eh ben, c'est ce qui va être mis au rebut. Pardon pour vous.
C'est vraiment un vilain mot, vous avez raison.
C'est pas la bonne méthode parce que de toute façon les gens dans le réel simplifient, on voit les SMS et tout ça, donc ça va rien changer. Oignon avec O ou I, moi ça ne me dérange pas, que les élèves fassent des fautes je peux les corriger, c'est pas ça le principal. Le principal c'est la compréhension des textes, c'est la rédaction, voilà. L'orthographe, ça sert à quelque chose. C'est vrai que c'est un marqueur social, mais on peut toujours améliorer l'orthographe. Et ici, dans ce collège, en troisième, les élèves font pratiquement plus de fautes.
Voilà Jean-Pierre, prof de français depuis 30 ans, interrogé par Sandrine Etoua-Andec de France Info. Les fautes d'orthographe, ce n'est pas le principal, Caroline Brizard, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais réagir à ce que disait notre sémiologue, parce que c'est vrai que cette fièvre qui s'est emparée d'une partie du corps social contre la réforme de l'orthographe, en fait, c'est une façon d'avancer contre la réforme du collège. Tout était dans tout, quoi. C'était encore une manière de détruire notre institution. L'institution au sens large, quoi. L'institution scolaire et les outils que sont l'orthographe. Donc voilà, je pense que toute une partie de la droite s'est engouffrée là-dedans comme un argument supplémentaire pour critiquer la réforme du collège.
En regardant l'étape d'après, donc avec une vision très politique.
Très politique, oui.
Olivier Houdard, vous êtes d'accord ?
Je pense que non, l'orthographe ne faudrait pas la réformer, mais plutôt la révolutionner. Parce que ça fait à peu près depuis 1835 qu'elle attend d'être vraiment changée. Mais... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est un problème éminemment politique parce que aucune autorité d'aucune sorte, à l'heure actuelle et depuis longtemps, n'est capable de changer quoi que ce soit, une virgule ou même un accent circonflexe, parce que justement il y a des il y a pas de consensus, il y a des résistances. Et il faudrait un pouvoir politique qui aurait le soutien d'une partie de la population. En tout cas, ce n'est pas le cas du gouvernement actuel, de celui qui viendra ou de ceux qui ont précédé.
Mais ça veut dire que toutes les langues se modernise.
Toutes les langues se modernisent et moi je pense que l'Académie à un moment donné, enfin quand elle fait son communiqué sur cette rectification, parce qu'elle veut pas endosser la responsabilité de cette rectification puisqu'elle est tellement mal prise par l'opinion, elle dit bien que c'est l'usage le grand maître. Et c'est vrai que dans l'usage, on voit bien, les mots changent, ils se raccourcissent, on dit plus automobile mais auto, on dit plus autobus mais bus. Et pourtant, la génération du dessus continue à employer ces vieilles expressions. On sent bien que tout évolue, quoi.
Ouais, et puis, il y a la génération d'en dessous, la génération texto, où là, c'est une nouvelle langue qui est carrément inventée. Olivier Houdard, ça vous énerve,
ça ? Elle s'écrit,
hein ?
elle ne se parle pas.
Elle s'écrit, oui.
Il était question pendant plusieurs jours que Denis Nufar, s'il fallait mettre un F ou un PH, mais c'est vraiment des discussions.
Alors, ça part de malentendu.
En 1935, oui. On a rajouté le PH pour faire chic, oui. Pour faire un peu antique, alors oui. Que c'était pas l'étymologie.
C'est moins arabe, c'était pas l'étymologie. Non, mais c'est vraiment dingue. Enfin, c'est vraiment les discussions de Byzantine sur sexe des anges, ces histoires de... Parce que comme tu disais, le fond du problème, c'est comme disait le professeur avec lequel je suis d'accord, le fond du problème, c'est pas quelques fautes d'orthographe, c'est que les élèves soient capables de formuler leurs pensées, de l'écrire, ils soient capables de comprendre un texte. C'est ça le fond du truc.
Mais formuler une pensée avec une écriture approximative, ça... Napoléon,
il avait une pensée très formulée, mais
il employait des mots. Aussi, il paraît qu'il faisait des fautes d'orthographe.
Vous m'opposez Napoléon.
Non, mais ce que je veux dire aussi, et là, c'est pour aller dans le sens de ce que tu disais, c'est que les dictionnaires changent à peine et l'orthographe ne change pas, mais par contre l'usage change. Et par exemple, bon, on parle de nénuphar, on s'en fiche de nénuphar, mais par contre il y a personne qui dit que le temps futur est en train de disparaître de la langue. Ça serait bien plus intéressant de parler de ça. Et non pas d'ailleurs, à la limite, pour le regretter, mais pour savoir pourquoi et pourquoi. Bah, en fait, il disparaît parce que les gens n'en ont pas l'usage.
Ou parce que c'est compliqué, parce que le fut, vous dites, nous est même.
J'ai parlé du futur.
Mais moi, je te parle du passé simple.
Oui, je parle pas du passé simple.
Ça aussi, on l'apprend plus.
Oui, mais sauf que le passé simple, il n'existe plus que dans la littérature et un peu dans la presse quand même. Mais par contre, le futur, il disparaît du langage parler. Et ça serait bien plus intéressant de parler de ça que de parler de nénuphar. On n'en a rien à faire. Et faire, je l'écris PH, rien que pour emmerder les gens.
Car les musées en réaction, vous voulez réagir, non? Non. Marie Darigrand, sémiologue, Olivier Houdard, je vous vois vous agiter.
Oui, je voulais dire une chose aussi, c'est que les grammairiens du XVIIIe siècle, ils écrivaient phrases avec un F. Voilà, c'est tout.
Bon, mais ça laisse des espoirs pour ceux qui vont passer le bac français en juin. Mariette Darigrand, cette réforme ou simplification ou complexification, je ne sais plus, après en fin de débat, sur l'orthographe a créé cette polémique parce qu'on touche en tout cas à sans doute un sujet beaucoup plus profond.
Oui, le sujet profond, vous en avez parlé.
Qu'on a abordé, hein.
Oui, c'est ça, implicitement, c'est celle effectivement de l'identité. Nous sommes en problématique d'identité en France en particulier. Aujourd'hui, la langue fait partie intégrante et elle-même au centre de l'identité. On a du mal à savoir qui l'on est, on a du mal à vivre ensemble en France aujourd'hui. Or, parler ensemble est une grosse problématique. Donc, je suis bien d'accord avec ce qui vient d'être dit. Quelle importance, une graphie, hein, la langue française écrite, elle date du 17e, nous sommes au 21e siècle, les graphies n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est la syntaxe, en effet, ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour parler ensemble avec un héritage multiculturel, beaucoup de mots arabes, par exemple, dans la langue française, ce serait peut-être intéressant de le rappeler aujourd'hui, mais aussi les usages. Vous avez prononcé ce mot qui est très important, donc cette bataille, cette guerre picrocolline, je ne sais jamais s'il y a deux H ou un seul H, par exemple, je vous ai lu, à la radio, c'est bien, on ne fait pas de faute d'orthographe, eh bien, cette guerre picrocolline, partant de guerre réelle et ridicule, mais au moins que ça soit l'occasion de nous poser la question de la tension très très intéressante aujourd'hui, dans notre pays, entre les usages et disons l'héritage. C'est ça que nous dit cette problématique ridicule. Il y a un héritage culturel qu'il faut absolument réouvrir. Là, ça n'est pas le dictionnaire comme code établi avec une vérité révélée. Mais c'est le thésaurus, comme on disait avant, c'est-à-dire le trésor. Il y a un trésor absolument merveilleux qu'il faut réouvrir pour enrichir les rapports humains et faire de l'éducation de la culture. Mais ça, c'est compliqué. C'est le rôle de l'école, le rôle des médias, le rôle des intellectuels qui sont des médiateurs. C'est très compliqué, beaucoup plus que de faire une polémique ridicule. Or, ce travail-là, je crois qu'il est absolument urgent, pas simplement pour l'identité, mais aussi pour le parler, le vivre ensemble. Et alors, dernier point que je voulais dire, sur ces questions-là, il n'y a pas de décalogue, il n'y a pas de Torah. Moïse n'a pas eu l'orthographe, si vous voulez. La loi est purement un contrat passé de manière pragmatique entre les gens. Autrement dit, il n'y a pas de faute d'orthographe, ça n'existe pas. Sur ce plan, il faut réécouter un numéro de Carnet Nomade merveilleux sur cette antenne.
France Culture. Ouais.
Avec, ça n'existe plus cette émission, ouais. Mais il y a eu un numéro formidable avec Pierre Encrevé, qui est un grand linguiste, et qui explique ce qu'est l'orthographe, et qui explique très très bien qu'il n'y a pas de faute d'orthographe.
Caroline Brizard.
C'est la réaction des professeurs que j'ai interviewés. Mmh. Eux, ils trouvent que c'est presque un épiphénomène, ces rectifications. En revanche, ils sont très inquiets de voir que leurs élèves n'arrivent pas à exprimer correctement ce qu'ils ont dans la tête. Et qu'ils n'ont pas les mots pour le dire et qu'ils n'ont pas non plus la syntaxe. Et que tout est très approximatif. C'est un mot qui était très fort et qui était cité par une professeure qui est au lycée Voltaire à Paris. Et c'est vraiment frappant.
Mais pas que les élèves. Prenez les gens aujourd'hui qui sont impactés par la révolution digitale. Eh bien, la révolution digitale dans les entreprises, mais tout le monde, avant vous téléphoniez, aujourd'hui vous faites un mail. Eh bien là, vous avez un problème. On peut faire des fautes d'orthographe à l'oral, à l'écrit, ça peut vous discréditer. Donc, il y a un paradoxe du numérique qui est tout à fait intéressant, c'est que ça oblige à réapprendre la langue dans ses codes.
Merci Maria Darigrand, merci à Olivier Houdard et à Caroline Brizard.
Je refuse de parler de l'accent circonflexe quand les agriculteurs se suicident.
C'est la guerre à la grammaire, vénère contre le ministère. Nous les chercheurs d'orthographe, on est pionniers, on fait notre taf. On est pour le chapeau chinois, mais c'est pas nous qu'on fait la loi. Sortez tous vos Kleenex, pleurons l'accent circonflexe. Madame Clément, prof de ses francs, sait plus comment éduquer les enfants. C'est le bordel dans les manuels depuis que l'accent s'est fait la belle. Pas si complexe, même quand je texte, j'ai le réflexe de l'accent circonflexe. On parle à tous qu'un rit. Ciao l'accent, on fera 100 avec nos cerveaux déficients. Simplification, uniformisation.
On nous prend pour des cons.
Quand XHS, j'ai le complexe de l'accent circonflexe.
Le groupe Piaf Edith et son titre Le Circonflexe. Je refuse de parler de l'accent circonflexe quand les agriculteurs se suicident. Voilà pour ce débat sur l'autographe et on change de sujet avec l'une des actualités fortes des jours qui viennent et qui débute aujourd'hui avec le salon de l'agriculture et un monde agricole en crise et en colère.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Voilà, on va écouter l'extrait d'un reportage diffusé lundi dernier dans le journal de 20h de France 2.
Un ministre seul, cerné par des agriculteurs en colère. Le regard est désapprobateur, mais pas impressionné. Tout commence hier soir vers 20h. Une trentaine d'éleveurs débarquent devant la maison de Stéphane Le Foll, près du Mans. Sur la haie de son jardin, ils accrochent cette banderole. Nous sommes comme nos vaches, sur la paille. Ce dessin aussi, symbole de la mort de leur profession. Stéphane Le Foll ne tarde pas à sortir de chez lui. Les premiers échanges sont tendus, presque agressifs. Comment je fais pour payer mes factures ? Demande un éleveur. Un autre fait bondir Stéphane.
Voilà une manifestation inédite chez les agriculteurs. Elle est frappée en pleine nuit à la porte du ministre de l'Agriculture et pendant l'état d'urgence. Mais c'est un autre débat. En tout cas, cela montre la détermination. La colère des agriculteurs. Manuel Ruffez, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à France Inter, Éric Delachenet du Figaro, en téléphone avec nous. Vous allez bien sûr suivre tous les deux le salon de l'agriculture qui ouvre ce matin. Pour vous, journaliste, c'est une couverture qui sera, j'imagine, dans le contexte actuel, Manuel Ruffez, différent des autres salons que vous avez pu couvrir.
Ah oui, alors tous les ans, il y a une crise. Il n'y a pas une année où le salon ne se passe pas pendant une crise. Il y a toujours une crise, mais en général, c'est une crise d'une filière. Là, on a la crise de quasiment toutes les filières. En fait, il n'y a qu'un seul secteur qui va à peu près bien en agriculture, c'est la viticulture. On attend de voir ce qui va se passer dans l'année, mais pour l'instant, c'est la seule qui tient debout. Il y a la crise du lait, il y a la crise du porc, ce sont des crises de marché. Les producteurs vendent en dessous de leur coût de revient, c'est une catastrophe. La crise de la viande bovine depuis plusieurs mois. Les maraîchers, on a eu un hiver exceptionnellement doux, les récoltes sont abondantes. Résultat, les prix s'écroulent. Il y a la grippe aviaire dans la volaille. Enfin, on pourrait énumérer tout ce qui se passe et qui se passe mal en ce moment en agriculture. Et on a ce salon qui arrive là, effectivement, maintenant, qui sera effectivement le salon de la crise. Ça, on peut le dire.
Éric Delachaînée du Figaro, vous allez donc couvrir à partir de ce matin ce salon de l'agriculture. Vous êtes également agriculteur, Éric Delachaînée. Vous allez mettre l'accent sur l'explication de la détresse des agriculteurs cette année. Vous allez travailler là-dessus, bien évidemment.
Bonjour. Oui, tout à fait. La détresse est très profonde. Moi, j'ai la chance d'avoir un pied à Paris en tant que journaliste agricole. Je salue Manuel au passage. Et aussi un pied en Mayenne, sur la commune de Deux-Evailles. Et effectivement, la crise, comme le disait tout à l'heure Manuel, n'a jamais été aussi forte. Vu son ampleur, elle touche pratiquement tous les secteurs. Et effectivement, la viticulture est pour l'instant exemptée de cette crise. Mais elle est très profonde et la détresse est là. Et je pense que les réformes ou les mesures d'urgence qui ont été prises étaient nécessaires, mais ça va pas assez loin. Moi, je croise en Mayenne, excusez-moi, oui. Je croise en Mayenne des agriculteurs qui sont vraiment très mal, très très mal.
Alors l'Humanité titrait hier la juste colère des agriculteurs qui veulent vivre de leur métier. On parle de 200 suicides par an, entre 200 et 600, Éric Delachaînée.
Oui, en gros, on pense qu'il y en a un tous les deux jours. C'est-à-dire qu'il y a, ce sont des gens très très pudiques qui attendent souvent le dernier moment, malheureusement, pour sortir leur douleur. Ou alors qui s'enferment totalement, et là, souvent, l'irréparable est commis. Et donc, c'est tout à fait regrettable. Moi, je me souviens, en 2011, je suis l'agriculture au Figaro depuis 2008. En 2011, la crise était forte, moins forte qu'aujourd'hui, mais déjà, il y avait beaucoup de suicides. Et j'ai fait un papier sur le problème du suicide qui a un peu inspiré le plan de prévention du suicide, je le dis de façon modeste, le plan de prévention du suicide du ministre de l'Agriculture de l'époque. Mais malheureusement, cette question du suicide est totalement absente des fameux plans d'urgence. Moi, j'ai posé la question le 22 juillet dernier à l'Élysée. Manuel Valls était là, le ministre Stéphane Le Foll.
C'est les premiers barrages, des éleveurs.
Les premiers barrages, c'est suite au premier barrage. Le premier barrage, il a lieu le 18 juillet, dimanche soir, du côté de Caen. Le 22 juillet, le gouvernement prend l'ampleur de la catastrophe, enfin de la crise agricole, et déclare son plan d'urgence et annonce les mesures qu'il prend, 24 mesures. Et dans ces 24 mesures, je suis tout à fait étonné, il n'y en a pas une sur la prévention du suicide, qui est un vrai fléau et qui touche tous les secteurs, et même ceux qui vont bien.
Manuel Ruffez, comment ça se passe dans les reportages que vous êtes amené à faire avec les agriculteurs? Est-ce que les journalistes sont bien accueillis?
Oui, on est bien accueillis. On est bien accueillis parce que on va leur servir de porte-voix. Qui sont assez. Moi, j'ai jamais été mal accueilli sur aucun barrage, ni au salon, ni ailleurs. Il n'y a pas de méfiance. Sincèrement, il n'y a pas de méfiance. Il y a la volonté de parler, il y a la volonté de dire que ça va pas, la volonté de dire qu'il faut trouver des solutions parce qu'ils sont à bout, parce que ils ne savent pas comment s'en sortir et que ces solutions, elles sont quand même très compliquées à trouver dans ces marchés libéralisés qu'on a aujourd'hui de ces produits que sont le lait. Le porc, par exemple, comment faire pour qu'effectivement on puisse trouver un prix qui fasse vivre les producteurs alors que les cours mondiaux régulent un peu cette économie maintenant.
Éric Delachaînée, vous êtes d'accord, il n'y a pas de méfiance ni de défiance vis-à-vis des journalistes de la part des agriculteurs, des éleveurs?
Non, on est plutôt bien accueillis. Et même certains nous remercient de les avoir écoutés.
C'est vraiment le lieu, pardon Éric.
Oui, justement, comme ils sont seuls, quelquefois ils sont étonnés, on prend le temps de les écouter, ils sortent vraiment, quand la confiance s'installe, ils sortent les problèmes qu'ils ont plus profonds d'eux-mêmes, et ils se rendent compte que ce sont des êtres humains, pardon, avant tout, et qui méritent le respect. Qui mérite un total respect. C'est pour ça aussi que j'ai écouté la réaction du ministre de l'Agriculture sur France Inter, c'était lundi dernier. Il semblait choqué que des agriculteurs viennent sonner à son portail. Ce ne sont pas des gueux. Je suis désolé, s'ils en viennent à sonner à la porte du ministre de l'Agriculture, c'est qu'il y a vraiment un problème. C'est que vraiment, ils ne se sentent pas écoutés du tout, y compris. Et pourtant, M. Le Foll dit qu'il a un BTS agricole.
Et justement, ça c'est l'autre rendez-vous incontournable pour les politiques. Donc ça démarre ce matin, ça a démarré ce matin, hein, Éric de la Chesnaye, avec l'inauguration du salon par François Hollande. Les politiques vont venir aussi nombreux, personne s'est désisté là, cette année, en raison de la crise et de la colère.
Certains, enfin moi pour avoir parlé au président du salon, Jean-Luc Poulain, donc j'ai fait un portrait ce matin dans les colonnes du Figaro, me dit que l'année dernière il y avait 55 politiques qui étaient venus, cette année certains se sont désistés, il n'a pas voulu me dire lesquels, mais il y a moins d'affluence pour l'instant pour venir se montrer au salon de l'agriculture, parce que le président de la FNSEA, Xavier Bellin, l'a bien dit, il a dit ça sert à rien qu'ils viennent se montrer, nous ce qu'on attend prendre la il vient de se montrer au cul des vaches avec le petit prendre un petit café ou un petit verre de vin. Non, nous ce qu'on attend, a dit le président de la FNSEA, c'est qu'ils annoncent des mesures qu'ils prendraient s'ils étaient élus ou s'ils sont déjà au gouvernement, qu'ils prennent les vraies mesures d'urgence. Bah, je voudrais juste revenir, s'il vous plaît, par rapport à ce que disait Manuel, par rapport au marché libéralisé, je suis désolé, mais là, on a un point de divergence. C'est pas parce qu'il y a des marchés qui sont libéralisés que quand on vend son lait qui est produit en Bretagne et qu'on le vend à 200 km, les marchés internationaux, ils ont rien à voir. Le prix du lait de consommation, devrait suivre le marché français, les cours des marchés français, de l'offre et de la demande, et pas le cours du beurre poudre des indicateurs internationaux. Bah, je pense que s'il y avait une vraie politique, une vraie volonté politique, droite ou gauche, de dire on remet des outils de régulation pour justement redonner un vrai sens à la politique agricole commune, celui qu'il avait en 1957 quand elle a été créée, là, on pourrait sortir de cette crise. Mais tant qu'il n'y a pas de volonté politique d'aller justement à l'encontre des marchés libéralisés et des mouvements spéculatifs que ça implique, eh bien, on sera dans la crise. Les mesures d'urgence serviront à faire passer la douleur, mais de façon très éphémère. Mais le problème demeurera. Et plus on attend, plus ça va devenir grave. Parce que déjà en 2009, il y avait une crise notamment du lait. Des agriculteurs avaient fait la grève du lait. Il y avait eu des tensions au salon. Et là, en 2016, les problèmes sont beaucoup plus importants et se sont même amplifiés aux autres secteurs.
Je vais poser une dernière question à tous les deux, mais juste avant, Manuel Ruffet, les hommes politiques au salon, c'est pour un journaliste, c'est quoi, un cauchemar, une foire d'empoigne?
Ah, c'est un cauchemar, je crois. Ouais, alors, ouais. Moi, j'ai la chance, je fais de l'économie, du social, je fais de l'agriculture, je fais pas la politique, mais pour les journalistes politiques, ça va commencer, ça a commencé ce matin à 6h avec François Hollande, c'est un cauchemar, c'est la foire d'empoigne. Je ne sais pas combien de dizaines ils vont être à se battre pour avoir la même photo, la même image. Ça finit en pugilat, souvent. Il y a des journalistes qui finissent par terre, ils se tapent dessus avec leur perche de prise de son, enfin c'est un cauchemar. Je suis bien content de pas faire ça.
Dernière question à tous les deux, est-ce que ce salon d'agriculture a encore un sens avec cette crise, Éric de la Chesnaye puis Manuel Ruffet?
Bah, je pense qu'il a un vrai sens, hein, très vite. Je pense qu'il a un vrai sens à trois niveaux. Tout d'abord, il permet de faire rencontrer les agriculteurs avec les citadins, parce que quelquefois ils s'opposent, ils ont des idées préconçues les uns les autres. Deuxièmement, il oblige les producteurs, les industriels et les distributeurs qui souvent s'écharpent sur le terrain à se parler et à faire bonne figure. Troisièmement, au niveau du pays, au niveau de l'intégration communautaire des différentes communautés, eh bien, ça permet aussi de voir que la France est un patchwork.
De se rencontrer.
C'est très, très, très important.
Manuel Ruffet.
Oui, il a un sens parce que ça va leur servir aussi de porte-voix, de dire à tout le monde, aux hommes politiques, aux visiteurs, aux journalistes qui vont venir, de dire voilà dans quelle difficulté on est. Et d'ailleurs, j'y suis allé hier pour l'installation, c'était le jour avant l'ouverture, et les éleveurs de Primolstein, qui est la première vasse de race laitière, ont affiché: je suis éleveur, je meurs, en 4x3, ça se voit, le message est clair et il va passer.
Merci Manuel Ruffet et Éric de la Chesnaye. Avant d'aller à Londres, le clin d'œil de Yacine Bouzard, primaire à droite version Salon de l'agriculture.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Salon de l'agriculture 2016 pour ce concours du meilleur taureau. devant les yeux du jury. Premier concurrent, c'est le plus jeune avec le dossard numéro 28. Il nous vient du département de l'Eure. C'est une belle race normande.
Où on ne tient jamais promesse. Eh bien moi, ma conception de la politique, c'est qu'on tient parole.
Et alors que voici le deuxième concurrent, cette fois-ci avec le dossard numéro 52, il est très chevronné, il a gagné déjà plusieurs concours confirmés à l'étranger. Il nous vient de Bordeaux, cette belle race bordelaise, admirez sa robe.
Je n'aime pas la langue de bois. Il y a des choses à clarifier. Et notamment notre ligne politique.
Et enfin, dernier candidat avec le dossard numéro 37. Il nous arrive de la Sarthe. C'est cette belle race de taureaux reproducteurs.
Les Français ont droit de choisir autre chose qu'un remake de 2012.
Je vois les éleveurs de l'autre côté de la barrière qui se mordent les doigts. Ils attendent avec impatience et angoisse le verdict du jury. Mais que se passe-t-il? Un taureau de combat fait irruption alors qu'il n'est pas candidat, il n'a pas de dossard.
Il pense que c'est joué d'avance. Rien n'est joué d'avance.
Mesdames et messieurs, nous devons annuler le concours. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition, espérons en 2017. À vous les studios.
Voilà le clin d'œil avec la voix de Cyril Baer, Olivier Houdard du Monde.fr, du site du Monde. Vous vouliez réagir sur ce salon?
Oui, je voulais dire une chose. Les agriculteurs ont tout à fait la raison de se battre et de défendre leurs conditions d'existence. Et là, je vais parler pas plus seulement en tant que correcteur, mais en tant que travailleur salarié. Je pense qu'il serait temps pour les travailleurs salariés qu'ils entrent à leur tour dans la danse, parce qu'ils prennent des tas de coups dans la figure en ce moment. De la part de ce gouvernement, d'ailleurs.
Merci, Olivier Houdard. On va à Londres. L'actualité à l'étranger, retrouver notre correspondant Franck Madvon. Bonjour, Franck.
Bonjour, Frédéric.
L'actualité chez vous cette semaine, dominée par le Brexit et le référendum programmé le 23 juin prochain. Et la semaine, Franck, a été difficile pour David Cameron.
Ben oui, Frédéric, après l'accord obtenu à Bruxelles, le Premier ministre a dû très vite affronter, vous le savez, les eurosceptiques à Londres. La BBC a d'abord révélé que son ami proche, le ministre de la Justice, Michael Gove, soutiendrait le Brexit. Puis dimanche, l'obsession des médias avait une tignasse blonde, Boris Johnson. Le maire de Londres, sans doute l'homme politique le plus populaire du Royaume, s'est adressé à la nuée de journalistes qui guettaient sa sortie devant son domicile.
Tout le monde devrait rendre hommage à David Cameron pour ce qu'il a réussi à obtenir en si peu de temps. Mais je ne pense pas que qui que ce soit puisse affirmer de manière réaliste qu'il s'agit d'une réforme fondamentale de l'Union européenne ou de la relation de la Grande-Bretagne avec l'UE.
On a ensuite appris que près de la moitié des députés conservateurs, environ 150, soutiendraient le Brexit. Et hier, nouveau camouflet pour Cameron dans le Daily Telegraph. L'ancien chef du parti conservateur, Michael Howard, annonce à son tour qu'il votera pour une sortie de l'UE. Howard, c'est le mentor de Cameron. Il l'avait embauché comme conseiller il y a plus de 20 ans. Il l'a aidé à lui succéder à la tête des Tories. D'après Michael Howard, la renégociation de Cameron avec l'UE a échoué. Il était hier l'invité de BBC Radio 4.
De tous les regroupements de pays dans le monde, aucun n'a cherché à copier le modèle de l'Union européenne. Parce que c'est un modèle périmé qui essaie d'imposer une camisole d'uniformité rigide à des pays aussi différents que la Finlande et la Grèce. Et c'est pourquoi c'est un projet imparfait, actuellement en faillite.
Et alors Franck, c'est surtout le cas à Boris Johnson qui a intéressé cette semaine la presse anglaise.
Et pour le Times, Boris qui soutient le Brexit, ça sent l'ambition plus que la conviction. Le journal souligne que le maire de Londres se met du côté de la moitié environ, on l'a dit, des députés conservateurs et de près des deux tiers des militants du parti. Le Financial Times dresse le portrait d'un opportuniste. D'après le FT, Boris Johnson a un jour prononcé un discours anti-UE, puis il est allé s'asseoir au milieu du public. Il aurait alors murmuré à son voisin « Vous savez, je ne crois pas un mot de ce que je viens de dire ». Selon le journal, décrier l'Europe et la marque de Boris, pas sa conviction, même ses amis ne prennent pas son euroscepticisme au sérieux.
Oui, mais en tout cas, en votant pour le Brexit, Franck Madvon, Boris Johnson déclare la guerre à Cameron.
Ouais, le Guardian s'attarde sur ce combat des chefs dans un article intitulé « The Big Fight ». D'après le journal, Boris est un solitaire, Cameron un homme d'équipe, Boris est un homme de la ville, Cameron un garçon de la campagne. Boris répond à la définition du charisme proposée par l'auteur anglais Quentin Crisp, la capacité à influencer sans logique. D'après le Guardian, Cameron ne lui pardonnera pas son choix. Le journal fait même appel à une conseillère conjugale pour commenter la relation entre les deux hommes. D'après cette spécialiste, le choix de Johnson en faveur du Brexit s'apparente à une aventure extra-conjugale. Boris aurait été infidèle parce qu'il cherche un rôle, dit-elle. Elle conseille aux deux hommes une séparation amicale comme les bons parents. À l'inverse, les mauvais parents demandent à leurs enfants de choisir un camp. C'est ce que font aujourd'hui Cameron et Johnson, conclut cette conseillère. Les enfants comprenaient bien sûr les électeurs britanniques. Comme quoi le destin de l'Europe tient à peu de choses.
Merci Franck Madvon, correspondant de France Culture et Radio France à Londres. Merci à tous. L'émission se termine. J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Caroline Brizard, journaliste à l'Obs en charge de l'éducation, Olivier Houdard, correcteur au site du Monde, et vous avez publié avec Sylvie Prioul, La grammaire c'est pas de la tarte, aux éditions Point, créateur également de Langue Sauce Piquante, le blog des correcteurs du Monde.fr. Avec nous également en duplex de Bruxelles, Robin Cornet, journaliste à la RTBF. Un grand merci à Robin Cornet, Manuel Ruffez, journaliste à France Inter, Éric Delachaîné, journaliste au Figaro et agriculteur, était avec nous pour parler du salon de l'agriculture qui ouvre aujourd'hui. Notre regard extérieur, Mariette Darigrand, sémiologue du Secret des Sources. Merci à Franck Madvon, que l'on vient d'entendre dans les coulisses de l'émission. Mathias Mégy, Daphné Abgral, Vincent Abouchard, avec aux manettes aujourd'hui Jean-Guilain Melge. Dans un instant, le journal de Justine Dinché, suivi de répliques, les caricatures et la question du sacré. Alain Finkielkraut reçoit Anastasia Colosimo et François Evé. C'était Le Secret des Sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique. Bonne journée sur Culture.
Je voudrais quand même dire que la presse, j'en fais partie aussi, mais la presse a joué un drôle de rôle là-dessus. Elle a lancé une espèce de buzz qui reposait sur du n'importe quoi. Parce que beaucoup de gens ont retenu ou retiennent de cette polémique que l'accent circonflexe allait disparaître. Alors que c'est marqué nulle part, c'est totalement faux.
Vous donnez l'exemple de l'une des dictées de Finlande, où il ressort qu'en 2005, un élève de 5e a le niveau d'un élève de CM2 de 1987.
Oui, c'est vrai.
Je suis l'agriculture au Figaro depuis 2008. En 2011, la crise était forte, moins forte qu'aujourd'hui, mais déjà il y avait beaucoup de suicides. Mais malheureusement, cette question du suicide est totalement absente.